ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches ?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein ? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maël sur Divergence. Bonjour à toutes et à tous. J'annonce, il n'y aura pas de blague aujourd'hui. Je suis enrhumée, je suis énervée et on va parler d'un sujet sérieux.
Mais non, mais on n'est pas là pour faire le guignol, Mohamed, c'est la révolution.
Il y a un gros dossier auquel on doit s'attaquer. La semaine dernière, je trouvais ça trop frais, personne n'avait assez de recul, l'échiquier politique se déchirait, et puis parler d'un drame politique, c'est assez délicat, mais il faut en parler. Voilà, je fais évidemment référence à la candidature de Coxie au municipal de Paris sur la liste de Sarah Knafo.
Je te demande pardon ?
Mais bordel, mais Coxie quoi, celle qui chantait « Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garcon et garocon, ma fille, garocon ». Toute mon enfance qui s'envole. Le nationalisme est un fléau qui touche tous nos symboles, qui se propage aussi vite que la cystite dans un club échangiste. Bah pour moi, c'est comme si on venait d'apprendre que Fatal Bazooka avait pris sa carte au RN. Quoique cette possibilité n'est pas totalement exclue selon moi. Quand je vous dis qu'il ne faut idolâtrer personne, c'est pas des lol. Bref, Coxie qui disait gare au con, en fait, elle voulait surtout dire gare aux noirs et aux arabes, et on aurait pu percuter plus tôt. Dans le clip de Garçon, le harceleur de rue était représenté par un mec de banlieue racisé, alors que bon, dans ma courte vie de jeune femme, j'ai plus été alpaguée par des pères de famille en costard que par des lacostéennes. C'était du Némésis avant l'heure, finalement, féministe, mais que pour pouvoir être raciste en toute tranquillité. Tant qu'on parle de Némésis, vous l'aurez compris, le vrai sujet auquel je voulais m'attaquer, c'est bien évidemment la mort de Quentin Derenck le 14 février dernier à Lyon, lors d'une rixe entre militants antifascistes fascistes et fascistes, dont notamment les fameuses militantes de Némésis. C'est encore un petit peu flou sur ce qu'il s'est exactement passé, mais grosso modo, le 12 février, la députée européenne LFI Rima Hassan tenait une conférence à l'IEP de Lyon et le collectif Némésis est venu manifester contre sa présence. Parce que la démocratie, c'est caca. Le fameux Quentin était présent aux côtés du collectif et s'est parti en live entre la Jeune Garde, collectif de défense de gauche, et l'extrême droite. S'en est venu aux mains, Quentin Derenck a été passé à tabac et est mort des suites de ses blessures deux jours plus tard. Évidemment, Némésis a sauté sur l'occasion pour s'attirer la lumière et cracher son vomi. Quentin Derenck n'était même pas encore mort qu'Alice Cordier et ses sbires tweetaient déjà à foison de « l'extrême gauche tue, vous voyez que c'est pas nous les méchants, tout le monde déteste les antifas ». On va poser les bases tout de suite, bien évidemment que personne ne devrait mourir pour ses idées, aussi nauséabondes soient-elles. S'il m'est arrivé de me réjouir de la mort de connards d'extrême droite, genre Jean-Marie Le Pen, c'était toujours de mort naturelle. Là, on a appris que Netanyahou avait un cancer, et bien ça me réjouit que le karma rattrape son cul. Mais c'est pas pour autant que je lui souhaite de se prendre une balle en pleine tête. Bref, revenons à Quentin Derenck, sa mort est inacceptable, je le pense et je le répète, personne ne devrait mourir pour ses idées. Mais je vais pas le pleurer non plus. Un militant suprémaciste et antisémite qui défile aux côtés des néo-nazis du comité du 9 mai n'aura jamais mes larmes. Je ne vais pas parler de sa mort en elle-même parce que c'est une enquête en cours, que c'est délicat, et que j'ai pas envie de flinguer ma carrière de journaliste avant même qu'elle ne commence. Par contre, je vais parler des réactions, et notamment de la réaction politique autour de sa mort. Je l'ai dit, les groupes militants d'extrême droite se sont jetés sur l'occasion pour cracher toute leur véhémence à l'encontre de la gauche, et ça a été tellement rapide qu'on se demande s'ils n'attendaient pas que ça. Que quelqu'un de leur rang meure pour l'ériger en symbole et attaquer les autres forces politiques. D'autant plus qu'on a appris tout récemment que c'est Némésis qui a tendu le guet-apens à la Jeune Garde pour que ça en vienne aux mains. Et il n'y a pas que l'extrême droite qui a sauté sur l'occasion pour fustiger la France Insoumise, qui a pourtant aussi condamné ces violences et cette mort inacceptable. Il y a aussi eu Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs décidé de classer LFI à l'extrême gauche il y a 15 jours, allant à contresens du Conseil d'État. Mais aussi Gérald Darmanin, ministre de la Justice, Emmanuel Macron lui-même, Jordan Bardella bien sûr, et puis tout un tas de députés divers et variés. La tension était palpable dans l'hémicycle lundi dernier, lorsque la décision d'observer une minute de silence en hommage à Quentin Derenck a été prise. Tous les partis, à l'exception de Liotte, ont voté pour cette minute de silence, mais les débats qui l'ont précédé étaient inaudibles. Et LFI s'en est pris plein la gueule.
Que cet grave assassinat serve au moins pour sa mémoire, à ce que vous vous posiez les bonnes questions et qu'enfin vous tiriez un certain nombre de leçons et de conclusions.
Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près, ni de loin, dans ces violences. Et si nous combattons l'extrême droite et les groupuscules fascistes violents autour d'elle, c'est précisément car ils glorifient la mort et la brutalité, érigent le racisme en principe, et qu'il n'y a pas plus anti-républicain que cela.
Ce que vous venez de faire est absolument ignoble.
Il y a une violence incontestable entre la France insoumise et la Jeune Garde. La Jeune Garde tue et la France insoumise devrait le condamner.
Sur la question de la minute de silence, je suis un petit peu mitigée. Certes, je comprends qu'on veuille condamner cet homicide par la voix de la représentation nationale. Mais rendre hommage à un néo-nazi au sein même de nos institutions démocratiques dont la devise est « liberté, égalité, fraternité », soit l'exact opposé de la devise des fachos, je suis moins certaine du républicanisme de la chose. Et puis, où étaient les minutes de silence pour toutes les victimes de l'extrême droite? Parce qu'on parle de la supposée violence de l'extrême gauche, mais il faudrait pas oublier celle de l'extrême droite. En moyenne, en 2025, une agression était commise chaque semaine par des militants identitaires, selon Libération. Des civils comme des militants, des membres de la communauté LGBT, des immigrés, des Français non blancs. Federico Martín Aramburu, un rugbyman argentin tué à Paris en 2022 par balle par deux membres du GUD. Hichem Mirawi, un coiffeur tunisien tué par balle à Puget-sur-Argent par un Français islamophobe et raciste qui soutenait le RN. Les ratonnades de Gros Lardon aussi pour les connaisseurs. Et des dizaines de projets d'attentats de l'ultra-droite déjoués à temps, heureusement. Selon les études de la violence politique en France, 90% des violences à caractère idéologique sont imputables à l'extrême droite. Mais selon Marion Maréchal Pétain-Le Pen, la violence d'extrême droite est résiduelle par rapport à la violence de gauche.
En fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche.
Mais il y a des morts, vous le savez.
Non mais elle est dérisoire, je veux dire, ça n'existe pas statistiquement. Non mais moi je regarde quand même la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, une dizaine de responsables de la cocarde et de l'UNI qui se sont fait casser la gueule dans les facultés. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La seule violence qui est structurelle, massive, systématique...
Mais vous ne niez pas, Marion Maréchal, qu'il y a eu des morts
Je ne sais même pas d'où sortent les chiffres de la France Insoumise qui ne sont jamais challengés.
Parlons de Clément
Méric.
Clément Méric.
Oui, mais Clément Méric, absolument, il y a eu Clément Méric. Mais Clément Méric, est-ce qu'il y a une comparaison possible avec Quentin? Excusez-moi, non.
Bah si. Clément Méric était un militant antiraciste tué par des skinheads nationalistes à Paris en 2013 au cours d'une rixe. C'est justement hyper comparable, donc ta gueule, Marion. La raison pour laquelle on en parle autant, et pour laquelle moi j'en parle aujourd'hui, c'est le lent glissement vers une pente dangereuse, voire le retournement complet des certitudes qu'on a depuis des années. Dans l'histoire, ça a toujours été l'extrême droite, les méchants. Mais ça, c'est genre factuel, hein, je l'invente pas par sympathie partisane. Parce que ce sont eux qui ont des idées nauséabondes, genre le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme. Et ce sont eux qui ont des moyens violents de les mettre en œuvre. Ce sont eux qui agressent des mères, qui tuent des personnes simplement parce que leur couleur de peau ne leur revient pas, qui massacrent des groupes entiers en raison d'une religion qu'ils n'approuvent pas. Bah oui, faudrait peut-être pas trop l'oublier, mais le génocide juif, le génocide tzigane, le génocide palestinien, tout ça c'est l'extrême droite, pas l'extrême gauche. Et si vous avez encore besoin d'arguments, autres que les cours d'histoire, eh ben regardez l'actualité. Des crimes racistes, il y en a malheureusement trop souvent. Et puis ils sont pas discrets les néo-nazis. Non, ils défilent tranquillement dans nos rues. Chaque 9 mai, et ça j'en ai déjà parlé donc je vous renvoie vers la chronique en question, mais aussi ce week-end pour rendre hommage à leurs camarades nazis. À Lyon, à Paris, des milliers de nazis en herbe ont défilé, drapeaux nationalistes en main, semant derrière eux quantité de dog whistles. Les dog whistles, ce sont les messages à caractère politique dissimulés derrière des apparences innocentes. Par exemple, la marque de vêtements Helly Hansen, largement portée par les militants d'extrême droite, dont les initiales sont HH. HH comme Heil Hitler. Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais c'est justement ça qui fait la force malsaine des dog whistles auxquels nous devons rester vigilants. Ça permet aux sympathisants nazis de se trimballer leurs symboles sans éveiller les soupçons. Après, de façon moins subtile, ils ont aussi tagué la statue de la place de la République avec des croix gammées. En 2026, en France, des croix gammées sur nos monuments. Et puis de toute façon, suffisait de voir ce week-end. Hein.
Dans le cortège à la mémoire de Quentin, manifestent principalement des jeunes, dont une large majorité d'hommes. Les témoignages à notre micro ne sont pas nombreux. Certains préfèrent rester anonymes.
Toute perturbation ne sera pas la bienvenue et tout perturbateur sera évidemment sorti du cortège. Il n'y aura pas de tolérance, il y aura une tolérance zéro vis-à-vis de cela.
Pourtant, sur cette vidéo, un geste répété plusieurs fois laisse peu de place au doute. Repris par la sécurité, le manifestant ne sera pas mis à l'écart. Parmi les manifestants, de nombreuses mouvances d'extrême droite comme l'Action française, groupe nationaliste et historiquement antisémite.
Et en plus, ils n'assument pas leurs idées vomitives, tous masqués et capuchés. Les fachos sont des gros lâches, c'est pas nouveau, c'était déjà le cas en 40 quand une partie de la France a rangé sa dignité dans son cul pour sucer la Gestapo. Tout ça pour dire qu'on devrait vraiment s'alarmer, mais genre là, vraiment tout de suite, sévèrement. Les sympathisants des idées d'Adolf Hitler et de ses contemporains sont en train de normaliser leurs ambitions, de les rentrer dans l'arc républicain comme si c'était ok d'être un gros raslard nostalgique de Vichy. Et en plus de ça, ils sont en train de nous faire croire, avec la complicité des médias de Bolloré, que la vraie violence, les vraies idées nauséabondes, elles viennent de la gauche. On n'est pas dupes, hein. On voit bien que depuis quelques années, un plan de diabolisation du groupe LFI est à l'œuvre. Je les trouve pas parfaits, LFI loin de là, mais je trouve en revanche que les attaques qu'ils subissent sont injustes. On les traite d'antisémites antisémites lorsqu'ils défendent les Palestiniens et qualifient Israël d'État génocidaire, ce qu'il est, hein. On les accuse d'antirépublicanisme lorsqu'ils font remarquer que les macronistes, avec la complicité des autres partis de la représentation nationale, n'ont pas respecté le résultat du scrutin des législatives de 2024. On les accuse de vouloir semer le trouble lorsqu'ils haussent le ton dans l'hémicycle, sauf qu'en fait, on a passé un tel stade de crasse et d'hypocrisie qu'hausser le ton, c'est la seule façon de se faire entendre. On n'aurait pas obtenu le quart de nos droits si nos ancêtres n'avaient pas été turbulents. Et pendant qu'on fustige la gauche, l'extrême droite menace la vie des élus. Mercredi 18 février, le siège de la France Insoumise a dû être évacué en raison de menaces à la bombe. Alors n'en déplaise à toutes les autres forces qui composent l'hémicycle, mais ce n'est pas LFI qui sème le trouble dans les institutions. Ce sont les magouilles du RN et de LR, l'hypocrisie des macronistes, la complaisance du PS qui ont endommagé, voire brisé le peu de crédibilité qu'il restait à notre démocratie, voire à notre pays. Ils ne s'attaquent pas qu'au sens des institutions, ils s'attaquent aussi au sens des mots. Quand Marion Maréchal parle de la violence d'extrême droite résiduelle, c'est un mensonge. Quand Alice Cordier est présidente du groupe Némésis, le pseudo-groupe féministe nationaliste à l'origine des heurts qui ont mené à la mort de Quentin Derenque, dit que tout le monde déteste les antifas, elle semble oublier que le mot complet c'est antifasciste et que détester les antifas, par définition, c'est soutenir les fascistes. Mais non, on vous met dans le crâne que ce sont les défenseurs de nos droits et libertés individuelles qui vous veulent du mal, que les méchants ce sont les manifestants pour la Palestine et contre le racisme, et que les gentils ce sont les nazis qui défilent avec des croix gammées autour du cou dans les rues. Alors comme dirait Sego,
il y a des colères qui sont parfaitement saines.
C'est épuisant, j'en conviens, épuisant, angoissant, stressant de se rendre compte que les valeurs sur lesquelles nous nous étions construits sont décimées brique par brique par des ennemis de la démocratie, de constater qu'ils prennent du pouvoir et beaucoup de place. Oui, c'est épuisant, c'est énervant, mais c'est important de ne pas détourner les yeux, de continuer à pointer du doigt, à mettre les mots qu'il faut sur les faits et à hausser le ton pour se faire entendre. Parce que si on cède tous, il n'y a plus rien qui les empêche de nous tuer, nous et nos valeurs. Alors non, personne ne devrait mourir pour ses idées, si ce n'est à cause de la honte de vouloir raviver une France qui a tué des milliers d'innocents. Alors soyez curieux, restez révoltés et résistez. Bisous.
Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'International, les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents, il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la.